L'Amorce avec Jean-Simon Buick.
5 à pile, bon matin. Bienvenue dans cette amorce de vendredi, déjà la fin de la semaine. Vendredi 13. Faites pas trop de malheur ni de malchance, si vous croyez à ça. De toute façon, c'est pas très sinistre comme matinée. On se réveille sous les flocons à Québec. Un petit peu de neige qui est tombée cette nuit. Un petit peu d'accumulation par endroit, jusqu'à 2 cm, c'est ce qu'on prévoyait. Donc, un petit peu de neige sur la chaussée. Rien de trop alarmant non plus. C'est plutôt joli, en fait, en ce 13 décembre, à l'approche des fêtes, d'avoir un petit tapis blanc qui se réinstalle à Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, ça devrait se poursuivre avec de la faible neige intermittente, en tout cas jusqu'à l'après-midi. Maximum de moins 3 qui est prévu. Dès demain, c'est encore une journée un petit peu étrange. Vous vous souvenez que cette semaine, on a atteint 7 degrés à un moment donné dans la semaine. Et là, demain, c'est 5 degrés qui sont prévus, avec mélange de pluie ou de neige, tout dépendant de la température. Risque d'être de la pluie, bien entendu. Ça pourrait aller quand même jusqu'à une accumulation de 15 mm de pluie, selon certaines prévisions. Dimanche, maximum de moins 1, donc encore assez doux. 60% de risque d'averse de neige. Et lundi, ben là, on va refroidir à nouveau avec moins 10 et du soleil. Et pour la semaine prochaine, à long terme, la tendance est au soleil. En ce moment, à Québec, plutôt agréable. C'est moins 8, mais il n'y a pas trop de vent, donc c'est pas trop désagréable de sortir à l'extérieur. Dans l'actualité ce matin, plusieurs nouvelles dans différents domaines. D'abord en politique fédérale. Bon, vous vous souvenez qu'aux dernières élections, le pari du Parti conservateur, ben, c'était évidemment de déloger Justin Trudeau de la Chambre des communes comme premier ministre, et ça n'a pas été gagné. Il y a finalement eu un gouvernement libéral minoritaire, et les conservateurs se sont retrouvés dans le siège de l'opposition officielle encore une fois. Et il y a plusieurs députés qui, à demi-mot ou carrément de façon assez éloquente et concrète, ont blâmé le chef conservateur Andrew Scheer, qui n'a pas fait figure extrêmement bonne, notamment au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché son manque de charisme, sa difficulté à être de même niveau que les autres dans les débats, son français. Il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas avec Andrew Scheer. Bon, les valeurs un peu plus catholiques à droite, chrétiennes droite, qui étaient un petit peu moins bien reçues par plusieurs personnes également. Là, le type de personnage qui était Andrew Scheer ne passait pas nécessairement dans la population. Et donc, plusieurs députés conservateurs réclamaient sa démission, voulaient passer à autre chose, à un autre chapitre du côté du Parti conservateur. Et c'est chose faite, parce qu'au départ, sachez que Andrew Scheer ne voulait pas démissionner, que ce soit tout de suite après les élections ou dans les dernières semaines. Il a tout le temps voulu rester en poste, en tout cas jusqu'à maintenant. Et il n'y avait pas vraiment possibilité de le déloger immédiatement, c'est-à-dire que les députés conservateurs n'auraient pas pu décider aujourd'hui ou hier par eux-mêmes de déloger Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur. Il aurait fallu attendre un congrès du parti au printemps prochain, si je ne m'abuse. Mais donc hier, il a décidé finalement de renoncer à son poste de chef du Parti conservateur. Il va demeurer député. Cependant, il l'a annoncé hier. Il a d'ailleurs utilisé quelques mots en français. Pas beaucoup, la plus grande partie de son annonce, on comprendra, est en anglais. Mais il y a quand même quelques mots en français qu'il a adressé du côté de la Chambre des communes pour, en quelque sorte, faire le bilan de son passage comme chef du Parti conservateur.
Merci beaucoup. C'était l'honneur de ma vie professionnelle d'être chef de le Parti conservateur. Et je remercie tous mes collègues pour l'appui et leur confiance pendant les dernières 3 années. J'ai pris cette décision parce que c'est meilleur pour notre parti.
Alors, ça a été salué par plusieurs de ses collègues à la Chambre des communes. Certains semblaient plus enthousiastes que d'autres. Beaucoup ont souligné quand même l'humilité d'un chef qui n'a pas nécessairement eu la performance qu'il aurait souhaité, mais prend quand même son courage à deux mains pour démissionner et poursuivre d'une autre façon, en quelque sorte. Et c'est le cas du député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qu'on connaît bien à Québec, pardon, et qui s'est exprimé sur le départ de son ex-chef.
C'est son extraordinaire humilité, sa patience et son courage qu'il a particulièrement démontré depuis les 2 derniers mois. La rencontre avec la 60aine de candidats défaits à Montréal a été une épreuve terrible pour lui. Mais il le savait. Mais pour lui, c'était important d'être là. C'était important d'écouter, de vivre, voir ce que les gens avaient lui dire. Et comme politicien qui écoute, c'était dur à battre.
Et même Justin Trudeau a décidé de rendre brièvement hommage, en quelque sorte, à Andrew Scheer. Bon, ils ont souvent été à couteau tiré, on comprend, ces deux partis opposés, Justin Trudeau et Andrew Scheer, sauf qu'il a quand même pris le temps de souligner l'engagement d'Andrew Scheer en politique.
Je veux aussi souligner qu'il y a peu de gens qui savent les défis et les opportunités, mais aussi les embusques et les barrières qui existent quand on est un leader d'un parti divers et national. comme le Parti conservateur ou le Parti libéral.
Il faut dire que sa démission survient dans un contexte de controverse un petit peu parce qu'au même moment, le Globe and Mail sortait une nouvelle hier concernant Andrew Scheer en lien avec le paiement des frais de scolarité dans les écoles privées pour ses enfants. Il faut dire que c'est coutume dans un parti de payer les frais de déménagement d'un chef de parti. Lui, dans son cas, partait de Regina, Ottawa. Finalement, il y avait une différence dans les frais de scolarité et c'est à même la caisse du Parti conservateur que ça a été puisé. C'est pas quelque chose d'illégal en soi, sauf que ça a créé pas mal de mécontentement du côté notamment de certains soit ex-sénateurs ou de membres du Parti conservateur qui n'étaient pas trop contents de la façon que ça s'est fait. Il y a des gens qui ont souligné, notamment le sénateur Jean-Guy Dagenais, qui est un ancien du caucus conservateur. Il dit, moi, quand je contribue au parti, c'est pour supporter les candidats pendant une élection et aider le parti à gagner l'élection et non, évidemment, pour payer des frais de scolarité aux enfants. Sauf que, bon, il y a une espèce de tâche en toile de fond de sa démission. Ça change pas grand-chose, remarquez, puisque là, il est déjà parti comme chef conservateur. La plupart des analystes s'entendent pour dire que c'était le bon moment, qu'il fallait qu'il s'en aille et qu'il ne se rende pas à l'humiliation de se faire éjecter par son propre parti. Donc, de partir volontairement, c'est certain que ça lui permet de quitter la tête haute plutôt que de se faire montrer la porte gentiment ou plus ou moins par ses collègues suite à la dernière défaite électorale. Deuxièmement, dans l'actualité ce matin, un peu plus dans le registre des faits divers, je sais qu'on en parle presque à chaque matin, là, mais ça reste une grosse nouvelle et c'est toujours en toile de fond cette espèce de risque pour notre cybersécurité, pour la protection de notre identité, l'accès à nos appareils, l'accès à ce qu'on fait sur le web. Souvenez-vous, cette semaine, on a appris via le Journal de Québec d'abord que plusieurs personnalités publiques québécoises s'étaient fait viser par un pirate informatique qui avait réussi à accéder à leur téléphone cellulaire, que ce soit leur iCloud, leur message, mais était parvenu à entrer dans leur vie privé. Et on n'avait pas encore beaucoup de détails jusqu'à ce qu'on apprenne que, d'abord, il y avait enquête depuis un an et demi par le service de police de l'agglomération de Longueuil. Et finalement, il y a eu arrestation cette semaine d'un consultant en informatique qui s'appelle Pascal Desgagnés. C'est un homme de Québec, en passant 45 ans. Et lui a comparu hier du côté du palais de justice de Québec. Et on a un peu plus de détails sur lui. Hier matin, je vous disais que c'est quelqu'un qui a déjà consulté, qui était consultant pour Desjardins. Quelqu'un qui était considéré par plusieurs personnes, donc des anciens collègues notamment, comme un génie informatique. Quelqu'un de très, très fort, un crack dans l'informatique, qui était capable de faire un peu ce qu'il voulait avec un système informatique. Et ça a été confirmé un petit peu, là, le stratagème qu'il utilisait. D'abord, ça fait longtemps, ça fait belle lurette qui se prête à ce manège-là. Depuis 2013 à peu près, ça aurait touché même des gens aux États-Unis. Il aurait réussi à rentrer en utilisant des logiciels qu'il aurait trouvé, entre autres sur le dark web, pour pirater des données. Et là, après ça, il a utilisé le iCloud et ça lui a permis d'épier des victimes. Et l'affaire, c'est que Pascal Desgagnés, il a eu accès non seulement à des cellulaires de gens qui lui ont pas donné accès volontairement, bien entendu, mais comme c'est un consultant informatique, il était assez proche de plusieurs institutions importantes. Notamment, il a été consultant pour Revenu Québec, l'Assemblée nationale. Il y avait une carte d'accès. On dit que c'était très limité, là. Il n'y avait pas accès à tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, vous comprenez, là. Mais il y avait quand même une carte d'accès à l'Assemblée nationale. Il était capable de rentrer dans les ordinateurs. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui avait son nez un peu partout. Et puis qui, en plus, avait les capacités d'aller chercher des données pour son propre bénéfice sans que les autres s'en rendent compte. Hein. Alors, heureusement, il y a eu des cris d'alarme qui ont été sonnés, notamment la plainte de Véronique Cloutier. Et là, on a mis le grappin sur lui. Et hier, il a fait face à plusieurs accusations. C'est 7 accusations au total, des accusations qui sont en lien, évidemment, à ce qu'il a fait, entre autres des accusations de malversation en lien avec des données informatiques. C'est quelqu'un aussi qui a été remis en liberté sous plusieurs conditions. Il y a également des accusations de vol, de fraude à l'identité, utilisation non autorisée d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Donc, je vous disais qu'il a été remis en liberté sous condition, mais c'est vraiment très strict, là. D'abord, il y a 32 personnes avec qui il peut pas communiquer, il peut pas accéder aux médias sociaux. Il peut, par contre, utiliser des ordinateurs dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Et pour essayer de démêler le tout, je vous invite à écouter la procureure de la Couronne dans le dossier, Dana Cernacek, qui explique un petit peu ce qu'il va devoir faire.
Il doit dénoncer les appareils qu'il va utiliser et il doit en donner la liste à l'enquêteur. Et si jamais, dans le cadre de son travail, il a besoin de changer cette liste-là, il doit également le faire, mais au préalable.
Alors, il va être sous haute surveillance, ça ne fait aucun doute. Là, on ne le laissera pas poursuivre dans la même veine qu'il avait déjà poursuivi. Et vous avez, dans le Journal de Québec ce matin, quelques détails par rapport à des victimes. Alors, sachez qu'on n'a pas nommé le nombre de victimes, ni l'identité, évidemment. Là, on ne va pas commencer à nommer tout le monde du côté de la couronne qui a été touché par ça. Puis, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ne veulent pas que ça se sache. Mais il y en a qui sont sortis volontairement. Ben, d'abord, vous saviez qu'il y avait cette rumeur-là que les joueurs du Canadien avaient été touchés, notamment Brendan Gallagher. Ben, le Canadien de Montréal, eux, hier, ont dit qu'aucun des joueurs n'avait été visé par le piratage. Mais là, il y a un peu de controverse, en quelque sorte, parce que Félix Séguin de Québécois dit, ben, moi, mes sources, ils persistent et signent. Il y a des joueurs du Canadien qui ont été touchés par ce piratage-là. Alors, qui du vrai là-dedans? On aura peut-être des détails pendant le procès. Il y a également la conjointe de Jonathan Bernier, Martine Forget, qui aurait été touché par l'espionnage de Pascal Desgagnés pendant plus d'un an. Sur les médias sociaux, elle s'est exprimée puis elle a dit « Si vous saviez tout ce qu'il y avait à propos de moi en sa possession, c'est dégueulasse. Je capotais quand ils ont dû me dire ce que le gars avait en sa possession à propos de moi et Jonathan, si vous voyez ce que je veux dire. » Donc, il y avait probablement des affaires intimes. C'est possible qu'il ait accédé à des échanges intimes au sein d'un couple. Et parmi les victimes, il y a une sommelière bien connue chez Cogeco, Jessica Arnois. Elle fait des chroniques notamment à notre station sœur à Montréal, le 98.5. Et Jessica Arnois, elle, aurait été parmi les victimes de Pascal Desgagnés. Elle s'est exprimée hier sur les ondes du 98.5. On écoute ce qu'elle a dit.
Selon la police, c'est comme s'il vivait notre vie puis qu'il y avait un genre de croche sur nous. Là. Je suis plus ou moins en accord avec ça. L'option B, ça peut être qu'il est très intelligent et il l'est déjà, si on le sait. Et il peut avoir des informations qu'il garde et qu'il peut revendre.
Alors, est-ce que c'était un pervers qui satisfaisait ses pulsions en entrant dans la vie privée des gens ou un génie qui s'amusait de tout simplement collectionner ça puis à voir s'il était capable d'aller jusqu'où il souhaitait se rendre aller dans la collection de données? On le saura sans doute, on en saura sans doute davantage dans les prochains mois. Une autre décision importante qui est tombée hier, c'est concernant la laïcité, la loi sur la laïcité. Vous savez que c'était devant les tribunaux et ça s'est rendu en cour d'appel pour la suspension de certaines mesures de la loi en attendant que finalement, le processus judiciaire soit terminé parce qu'il y a certains groupes, notamment des associations musulmanes, des associations pour les droits et libertés qui affirmaient que la loi était discriminatoire, entre autres à l'endroit des femmes. Et là, ils voulaient la suspension jusqu'à ce qu'on ait un peu le fin mot judiciaire de cette loi-là. Ben, la Cour d'appel a rendu sa décision hier. C'est pas une décision qui est unanime en passant, mais il refuse de suspendre l'application des dispositions de la loi sur la laïcité, le port des signes religieux. Alors, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est qu'on présume de la validité constitutionnelle, donc on présume que c'est une loi qui est correcte. C'est un revers, bien entendu, pour ceux qui arrivaient devant la Cour. Quand je vous dis que c'est pas unanime, souvenez-vous quand on a parlé de la juge de la Cour d'appel qui avait été un peu dans la controverse parce qu'elle avait souligné que, bon, c'était une loi qui était pas... qu'elle était féministe et puis qu'il y avait une allergie du côté des Québécois par rapport au port de signes religieux. Ben ça avait mis un peu en question, en relief, un manque d'objectivité de sa part. Ben c'est elle qui est divergente dans cette décision-là. Mais bon, ça veut pas dire que c'est terminé le débat. C'est pas parce que la Cour d'appel refuse de suspendre les mesures que ça se rendra pas à la Cour suprême. Ça risque d'être la prochaine étape et on en a encore probablement pour plusieurs années à débattre sur la validité de la loi sur la laïcité. Mais quand même, c'est une étape de plus qui est franchie. Du côté du gouvernement fédéral, il y a le ministre de la Justice, David Lametti, qui s'est exprimé hier. Et écoutez bien ses paroles, ça indique vraiment l'espèce de point de vue du gouvernement de Justin Trudeau par rapport à ça. Il surveille ça de très près.
Je n'ai pas encore lu la décision. Je connais le résultat. Notre position a été claire dès le début. Nous avons toujours dit que ce n'est pas pour le gouvernement de dire à ses citoyens quoi porter ou pas porter. Et nous avons dit dès le début que nous allons suivre le procès de près. Et la position n'a pas changé aujourd'hui.
Ça n'a pas du tout été la même réaction du côté du chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui lui défend la validité de la loi 21 qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Alors Yves-François Blanchet, lui, s'est réjoui hier de la décision de la Cour d'appel.
C'est ce qu'on espérait comme résultat. Nous, on a assez peu d'appétit pour les enjeux judiciaires autour de la loi 21. On souhaiterait qu'elle ne soit simplement pas contestée. On continue à insister pour que le gouvernement signifie aux organisations qu'il finance que l'argent de l'État canadien et donc des Québécois ne doit pas servir à financer des démarches contre l'État québécois et une loi légitime de l'Assemblée nationale du Québec.
Alors voilà, où est-ce qu'on en est avec la loi 21, la loi sur la laïcité. Un mot en terminant sur une nouvelle internationale d'importance. Il y avait des élections législatives au Royaume-Uni et Boris Johnson, qui est le chef du Parti conservateur, l'a emporté, mais vraiment avec une majorité écrasante. Et en quelque sorte, c'est un peu une élection référendaire, là, parce qu'il y a toute la question du Brexit qui traîne depuis longtemps, là, mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était pas mal en cause. C'est le cheval de bataille principal de Boris Johnson. Alors, c'est donc dire que fort probablement, fin janvier, le 31 janvier, plus précisément, suite à cette victoire écrasante aux élections législatives, ben, Boris Johnson va procéder au Brexit et sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors voilà, il est 5h15, on prend une courte pause et au retour, on va jaser de sport avec Dan.
FM 93, pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Toi, t'as comparé Greta avec Staline, toi? Hein?
C'est ça, puis elle avec
Sylvain délègue les controverses.
Ouais, c'est ça.
C'est fini. Il me reste 48 heures. Après ça, on s'en va dans le retour, puis on s'amuse.
Justement, ouais, profite-en. 48 heures de controverse.
Non, j'en veux pas. Finis ça avec une poursuite.
Ben oui.
T'es voyons.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30, FM 93. Ça me parle.
Passe-temps 3000, c'est plus de 50 ans dans le monde du jouet. Un inventaire époustouflant de modèles à coller, téléguidés, jeux de société, pistes de course, autos de collection. En veux-tu du choix? Enveloppe. Allez voir mon ami Marc, un pro pour vous conseiller. Passe-temps 3000, à Fleur de Lys, entrée 1.
Oui, décembre, c'est le mois des parties et je vous dis que ça va chauffer chez Beaupart Hyundai. Avec un taux de 0% en location ou financement, plus 500 $ en crédit pour pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. 90 jours sans paiement sur tous les modèles. Et jusqu'au 2 janvier, vous recevez en plus 500 $ en bonus de fin d'année sur les véhicules en stock sélectionnés. Procurez-vous le Santa Fe 2020 à 75 $ par semaine en location 48 mois avec léger comptant.
Toujours et seulement chez Beaupart Hyundai.
Rue Clémenceau, 666-2000.
Votre sel ou votre tablette est brisée. La vitre, connecteur, batterie, passez chez Telution. Votre sel sera réparé en 15 minutes. S'il n'est pas réparable, choisissez un nouveau sel récent à partir de 99 $. Il y a 5 Telution à Québec. Stationnement facile, dont le nouveau à Beauport, sortie seigneuriale.
Oui, allô?
On soupe ensemble ce soir.
Charles, je t'avais dit de pas m'appeler ici.
Mais voyons, c'est Pierre.
Oh, Minou!
Non, laisse faire le Minou, c'est qui ça, Charles?
Non, t'es où, là? Minou!
Gorge irritée? Les pastilles Valda pour un soulagement temporaire. Offerte en pharmacie.
Disponible cette semaine chez votre pharmacie Brunet au prix de 4,99 $ pour le boîtier de 50 pastilles. Tous les détails dans votre circulaire Brunet. Valda soulage les irritations de la gorge depuis 1904.
Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Depuis 40 ans, Pizza Royale vous offre des produits exclusifs, comme son authentique pepperoni.
En plus du service de livraison et pour emporter, Pizza Royale vous reçoit avec le sourire au buffet à volonté.
Pizza Royale Boulevard Amel et l'Express à Beauport.
Pizza Royale.
Distribution Kevin Laurendeau, c'est votre sauveur. Ou presque. Il livre gratuitement chez vous, sans contrat, des mets préparés et des viandes, volailles, poissons, fruits de mer surgelés, sous vide, de grade restauration. Pour des repas rapides et délicieux, visitez distributionkl.com.
La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat, présentée par Mercedes-Benz de Québec, est de retour. 15 gagnants finalistes partageront 36 000 $ en prix instantanés. Le grand gagnant sera dévoilé dans Salut Bonjour Weekend à TVA. Billets chez Ameublement Tanguay, Normandin, Brunet Participant, La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Pour 10 $, obtenez une chance et pour 20 $, 3 chances de gagner. La Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés.
On a tous débuté avec une voiture plus ou moins fiable. Puis, nos besoins ont changé en matière de sécurité et de performance. Chez Mazda Châtel, on se donne comme mission de vous accompagner dans l'achat de votre véhicule depuis plus de 40 ans. Mazda Châtel, sortie Pierre Bertrand, secteur du Marais.
Avec son choix de spectacles inégalé, la salle Albert Rousseau a le cadeau vedette qui saura réjouir tous vos proches. Offrir un spectacle, c'est offrir un moment mémorable aux gens que vous aimez. Avec 60 idées cadeaux en humour, théâtre, chansons et variétés, il ne vous reste plus qu'à sortir votre liste et faire vos choix. Cette année, le cadeau vedette à Noël est assurément un spectacle de la salle Albert Rousseau. Réservation au sallealbertrousseau.com.
Les carnavals du monde. 40 artistes sur scène. Au Capitole de Québec, du 17 au 19 avril 2020. Réservation 418-694-4444.
Avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
C'est vendredi 13. Vendredi le 13 décembre 2019. Bienvenue dans l'amorce. Il est 5h19. Merci d'être là avec moi. Tout de suite, un petit tour à la météo. Dans les prochains jours et pour le week-end, surtout, quelles sont les conditions attendues? Bon, vous allez vous réveiller sous la neige d'abord. Là, quelques flocons ce matin. Il y a eu un peu d'accumulation par endroit, jusqu'à 2 cm. Maximum de moins 3 et faible neige intermittente qui va se poursuivre jusqu'en mi-journée. Demain samedi, une journée au-dessus des normales de saison et pas mal à part de ça. 5 degrés le maximum avec plus ou neige. Donc, probablement de la pluie. On parle de jusqu'à 15 mm. Dimanche, maximum de moins 1, ça reste doux. 60% de risque d'averse de neige. À long terme, pour le début de la semaine prochaine, retour du soleil avec des températures plus froides, plus hivernales, autour de moins 10. Et en ce moment, on a moins 8 à Québec, mais c'est confortable parce qu'il n'y a pas trop de vent. Bon matin, Dan.
Salut, Jean-Simon.
Un tour d'horizon dans la Ligue nationale de hockey.
Ouais, il y avait beaucoup de matchs hier. Le Canadien jouait pas. Le Canadien va recevoir demain les Red Wings de Détroit. Et parlant des Red Wings, ils ont mis un terme hier à une séquence de 12 revers de suite en battant les Jets de Winnipeg. C'est un aller-retour face aux Jets. Mardi, les deux clubs étaient à Winnipeg. Détroit avait perdu et hier, les Red Wings l'ont emporté. Un but deux passes pour Philippe Zadina dans le match. C'est un ancien des Moussets d'Halifax qui avait été le choix de première ronde des Red Wings l'année où le Canadien a pris Jesperi Kotkaniemi. Les Bruins, ça va plutôt mal. Cinquième défaite de suite pour eux. Ils sont inclinés 3-2 à Tampa Bay. Deux buts dans le match pour Steven Stamkos. Victoire importante pour le Lightning. Je pensais pas dire ça à la mi-décembre que le Lightning allait jouer des matchs importants, mais ils ont pas eu un très bon début de saison. Mais les Bruins ont tellement eu un bon début de saison que malgré cinq défaites de suite, ça paraît pas au classement.
On est encore premier dans la division.
Exact. Ils ont encore beaucoup d'avance au premier rang de la division, comme tu le dis. Les Leafs sont perdus à Calgary 4-2. C'est fascinant ce qui se passe à Calgary depuis le changement d'entraîneur, la saga Bill Peters, pour un comportement inapproprié. Ben, les Flames ont 7 victoires de suite avec le nouvel entraîneur Jeff Ward. Donc ça, c'est assez impressionnant comme retournement de situation. Sinon, Artemi Panarin a marqué 3 buts, fourni une passe. Les Rangers ont gagné 6-3 à San Jose, comme quoi le changement d'entraîneur n'a à peu près rien donné là-bas. Et les Sabres de Buffalo ont gagné 4-3 contre Nashville. Les Sabres et les Panthers, je pense, c'est les deux équipes qui vont rivaliser jusqu'à la fin avec les Canadiens. Et j'ai l'impression qu'il y aura seulement une place pour ces trois équipes-là.
Okay.
Donc, une place sur trois pour Buffalo, Floride ou Montréal. Puis je veux te parler de football également parce que Lamar Jackson a continué sa saison de rêve. C'est la carrière des Ravens de Baltimore. Baltimore a défait les Jets 42-21. Jusque-là, pas de surprise. 5 passes de toucher pour Lamar Jackson dans la victoire. Il a couru pour 86 verges. Il a ici fracassé le record pour le plus de verges amassées par la course pour un carrière en une saison. Ça appartenait à Michael Vick, l'ancien record. Maintenant, c'est Lamar Jackson qui l'a. Et il lui reste encore 2 matchs pour l'améliorer encore plus.
C'est lui qui court plus qu'un porteur de ballon quasiment.
Exact. C'est en plein ça.
Merci, Dan.
OK, bienvenue.
À tout de suite. On reste dans le monde du sport, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment du sport. Ça va dépendre. Il y a toujours un débat. Il y en a qui considèrent que c'est un sport et d'autres non. Le monde du poker. Parce qu'à la une du Journal de Québec, ce matin, on a une nouvelle concernant le fisc, l'Agence de revenus du Canada, qui veut se mettre aux trousses des gros joueurs de poker canadiens. Parce qu'il y a des problèmes dans la loi pour parvenir à les imposer, malgré des gains monétaires extrêmement imposants. Il faut savoir que dans la loi, les revenus qui sont issus d'un jeu de hasard ne sont pas imposables. C'est pour ça que quelqu'un qui gagne au Lotomax, il ne paie pas d'impôts. Il reçoit carrément ses gains puis il n'a pas à payer quoi que ce soit au fisc. C'est la même chose pour quelqu'un qui gagne avec un gratteux, une machine à sous. Et théoriquement au poker aussi, parce que c'est considéré comme un jeu de hasard. Mais bon, ceux qui jouent au poker un peu savent à quel point les gens qui se rendent loin au niveau international puis qui jouent beaucoup, ils développent énormément d'habiletés. Il y a beaucoup de skills par rapport à la chance. Là. C'est pas ça de la chance, le poker. Oui, il y en a, évidemment. C'est pas toi qui décides les cartes que tu vas avoir, mais la manière dont tu vas les jouer fait en sorte que qualifier ça de jeu de hasard au même titre que d'acheter un billet du Lotomax ou de jouer aux machines à sous ou à la roulette, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Sauf que il y a une espèce de nuance par rapport à cette loi-là aussi, c'est que quand le poker devient, ou le jeu de hasard devient votre gagne-pain principal, l'Agence de revenus du Canada peut décider que ça devient des revenus d'entreprise. Comme critère, par exemple, également, le fait qu'il y a des connaissances spéciales, des renseignements privilégiés qui permettent de résoudre l'élément de chance. Dans le cas du poker, c'est un peu ça, c'est ce dont je vous parle. C'est-à-dire que quand tu développes tes habiletés, tes connaissances en poker, le niveau chance diminue un petit peu. Ça devient vraiment plus du pile ou face. Sauf que on n'est pas nécessairement capable de le démontrer et on n'est pas toujours en mesure d'affirmer que c'est le gagne-pain principal ou que ce sont des gains imposables. Mais pour vous donner une idée, des gens qui sont présentement dans la mire du fisc, des gens de la hauteur des gains monétaires qu'ils ont faits. Je vais vous nommer les joueurs qui sont visés présentement. Samy Lafleur, par exemple, lui est originaire de Shawinigan. Jusqu'à maintenant, il a remporté 510 347 US dans des tournois de poker. C'est quelqu'un qui est de haut niveau international. Il a déjà terminé deuxième au tournoi de la World Series of Poker. Il y a François Billard, lui, est originaire de Rosemère. Il a remporté 2,94 millions de dollars US. Vincent Jacques de Québec, 730 827 dollars US. Marc-Étienne McLaughlin, lui, a déjà remporté 2,98 millions de dollars US. Donc, c'est presque 3 millions. Et celui qui, présentement, est dans la mire du fisc, qui a remporté le plus d'argent en lien avec le poker, c'est Pascal Lefrançois, qui, lui, a remporté la cagnotte très respectable de 5,27 millions de dollars US. Alors, c'est pas évident de parvenir à les imposer. Et puis, on dit que souvent, on arrive devant le tribunal, puis on n'est pas capable d'avoir une preuve suffisamment prépondérante ou importante pour parvenir à démontrer que ce sont des gains qui sont imposables et pour démontrer à la cour que c'est pas un simple loisir et leur gagne-pain principal. Alors, on verra s'ils parviennent à imposer ces gens-là, mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est parfois remporté par les gens au poker, que ce soit en ligne ou lors de tournois. Il est 5h presque 26. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Je vous souhaite un excellent week-end. Il me reste une semaine à vous parler dans l'amorce en passant. Il y a quelques personnes qui me posaient la question là, jusqu'au 20 décembre, donc la semaine prochaine. Et en janvier, en passant, les gens de l'équipe de Stéphane Dupont vont faire une émission aussi à 5h du matin, donc vous ne serez pas laissé seul. Mais il nous reste une semaine d'amorce ensemble, donc on se reparle lundi matin 5h. Et dans quelques instants, c'est Bouchard en parle le matin pour la dernière fois. Salut, ciao.
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.